BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est un peu plus de 19h, on est de retour. Deuxième heure de Good Evening en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, alors on voulait d'abord aller prendre des nouvelles des marchés parce que vous savez que la semaine dernière a quand même été assez épouvantable. CAC 40 qui a perdu plus de 6%, qui a repris quelques couleurs aujourd'hui. Mais enfin, on va dire que c'était quand même assez poussif. Mais on va voir ça avec Étienne Brack dans un instant. Et puis, on va en parler avec nos experts qui reviennent évidemment dans un quart d'heure, Audrey. Hein.
Et oui, alors avec eux, on va aussi parler, bien sûr, de la présence d'Emmanuel Macron ce soir à Bruxelles avec d'autres chefs d'État et de gouvernement qui vont sans doute lui poser beaucoup de questions sur ce qui se passe en ce moment chez nous. Et puis, on parlera aussi de la contre-attaque chinoise qui a débuté après la décision des Européens de surtaxer les importations de véhicules électriques en provenance de Chine.
Tout ça avec nos experts ce soir. Trio d'économistes ce soir. Nathalie Janson, Neoma Business School, Christophe Rameau pour la Sorbonne et Pascal Delima pour CGI Business Consulting. Voilà le programme non exhaustif.
Ça nous promet un débat animé.
Absolument.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc, on voulait reprendre des nouvelles des marchés parce que vous savez que la semaine dernière était absolument épouvantable pour le CAC 40. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Donc, moins 6,2% la semaine dernière. On a repris 0,9%, mais on a le sentiment, vu la journée, que ça a quand même été un peu poussif.
Oui, il est bien trop tôt pour crier victoire et il faut encore s'attendre à des mouvements à la hausse, à la baisse d'ici le premier tour, qui, on le rappelle, est dans 15 jours, et puis surtout d'ici l'issue de ce scrutin qui sera dans 3 semaines, avec une visibilité d'ici là qui est toujours très faible. Les différents intervenants qui se succèdent à l'antenne, les notes des économistes que vous pouvez voir à droite, à gauche, leur conseil, c'est faut pas se précipiter. En effet, il y a des opportunités, mais la baisse pourrait encore perdurer si certaines mesures, si certaines promesses électorales devaient se concrétiser. À noter que le 10 ans français, il se stabilise. On est à 3,15. Ouais. Pour rappel, il y a 10 jours, on était à 3,11. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis le spread, donc l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, il était au-delà des 80 points de base la semaine dernière et redescend à 73 ce soir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là encore, il n'y a pas de situation de panique. Pour rappel, lors de la crise des dettes souveraines, il était à 120, 150 points de base. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Attention néanmoins, prudence et des séances volatiles qui devraient encore se succéder dans les prochains jours.
Bon, ça s'est un petit peu calmé en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup Étienne, on revient à vous dans un instant pour aller voir ce qui se passe du côté de Wall Street. Les marchés donc qui s'inquiètent un petit peu, les milieux d'affaires aussi, et pourtant le Rassemblement National, c'est une information qu'on vous donnait, commence à recevoir les patrons, les petits, les grands, pour essayer de rassurer les milieux d'affaires. C'est ce que nous racontait Thomas Asportas tout à l'heure, écoutez.
Ce sont même Marine Le Pen et Jordan Bardella eux-mêmes, avec le député Jean-Philippe Tanguy, ancien membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui reçoivent des dirigeants. Un cadre du parti nous explique qu'il s'agit de rencontres informelles. On essaie de faire ça loin des débats et des oraux organisés par les organisations patronales que le Rassemblement national considère, je cite, comme des pince-fesses sans intérêt. Ces rencontres ont lieu dans un appartement loué exprès pour ces rencontres à Paris et non pas au siège du parti dans le 16e arrondissement de la capitale pour assurer la discrétion des visiteurs. Le Rassemblement National a mis en place ces rendez-vous depuis la dernière élection de 2022. Ça remonte à 2022, donc ça ne date pas du tout d'il y a quelques jours depuis la dissolution. Mais évidemment, les contacts s'accélèrent depuis une semaine. Le parti nous dit rencontrer notamment assez régulièrement des entreprises du secteur de l'énergie et de l'armement. Et les responsables du Rassemblement National leur expliquent qu'ils ne feront pas de folie économique, qu'ils ne joueront pas contre les marchés. Ils savent que la France est sous surveillance, qu'elle le sera encore plus en cas de victoire du Rassemblement national aux législatives et en cas d'accès au pouvoir, au vu de la réputation du parti auprès des investisseurs. Et donc les cadres du RN leur font comprendre en privé que toute mesure qui serait imprudente pour les finances publiques sera remisée au placard.
Voilà donc pour ces rencontres qui se déroulent en ce moment du côté de Paris. Pendant que le RN essaie de rassurer les patrons, Emmanuel Macron est à Bruxelles ce soir pour essayer de rassurer ses homologues européens qui forcément vont lui poser beaucoup de questions sur ce qui peut se passer dans 3 semaines. Quelle ligne politique, quel message vis-à-vis de l'Europe. Et puis à Bruxelles aussi, on va parler ce soir de la future répartition des postes clés, maintenant que les élections européennes sont passées. Alors écoutez ce que nous dit ce spécialiste des questions européennes, Patrick Martin-Genier. Il pense qu'Emmanuel Macron va avoir encore plus de mal à imposer des figures, françaises ou pas, au poste clé désormais. Écoutez.
Son score a été extrêmement décevant. Il a été battu très largement aux élections européennes, ce qui va diminuer le rôle du macronisme au niveau européen. Il est moins porteur désormais d'un grand projet européen. Il n'en a plus les moyens. Oui, la dissolution de l'Assemblée nationale qui a été décidée dans la soirée même du 9 juin est de nature à affaiblir la France. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que le gouvernement qui va arriver à l'issue des élections législatives le 7 juillet au soir sera un gouvernement de cohabitation.
Voilà donc la voix française qui risque de porter un petit peu moins du côté de Bruxelles. Et puis alors à Bruxelles ce soir, on va aussi parler de la Chine. Parce que ça n'a pas traîné. Les Chinois viennent de répondre, ça y est, à la décision des Européens de surtaxer les importations de voitures électriques. Ils ont décidé d'ouvrir une enquête sur les importations européennes de produits à base de porc. Et quand on voit les chiffres, ils ont su taper, comme on dit, là où ça fait mal. Mathilde Cheminade.
Pour les éleveurs de porc européens, le marché chinois est colossal. 2 milliards d'euros de viande exportée l'année dernière. Les principaux exportateurs sont l'Espagne, le Danemark et les Pays-Bas, mais aussi la France, pour qui la Chine reste le principal débouché hors Union européenne. Elle y a exporté en 2022 140 000 tonnes de porc. Un revers de bâton, alors que la France avait pourtant obtenu d'importantes concessions chinoises ces dernières années. En 2013, l'agrément pour exporter des charcuteries. En 2021, le droit d'exporter même si le territoire est touché par la peste porcine africaine. Et le mois dernier, lors de la visite de Xi Jinping en France, l'autorisation d'exporter tous les abats, ce qui allait faire grimper les exportations de 10%. Cette enquête anti-dumping risque donc de frapper de plein fouet la filière, alors que le porc est la seule viande française à bénéficier d'un excédent commercial.
Mathilde Cheminade, et puis un mot d'entreprise. Bonne nouvelle pour Biogarant, leader français, vous savez, du générique, mais dont le propriétaire Servier veut se séparer. Le labo pharmaceutique français Benta a déposé une offre aujourd'hui, une offre qui a toutes les chances de l'emporter sur ses concurrents. Hélène Cornet.
Le groupe pharmaceutique Benta Lyon l'assure, son offre est la mieux disante. Au niveau du montant d'abord, 850 millions d'euros, c'est plus élevé, dit-il, que les offres concurrentes, notamment indiennes. Mais surtout, c'est la seule offre totalement française. Benta est en effet l'ex-sous-traitant Famar, immatriculé à Lyon et repris en 2020 à la barre du tribunal de commerce. Elle serait donc la seule à être exonérée de la procédure de contrôle des investissements étrangers. Pour Benta, sa candidature est la plus légitime, industrielle d'abord et pas seulement financière. Les deux groupes sont sensiblement de taille identique. Ils font surtout le même métier, celui de la fabrication de génériques. À tel point que la feuille de route s'impose d'elle-même. L'idée serait de rapatrier une partie de la production européenne sur le site près de Lyon pour créer des économies d'échelle et augmenter la rentabilité de Biogarant. Si on va jusqu'au bout de la logique souveraineté sanitaire, explique Benta, son offre remplit tous les critères.
Voilà, dossier que Bercy, comme dit l'expression, surveille comme le lait sur le feu. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h09. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture donc ce soir à la Bourse de Paris. On récupère 0,9% péniblement après en avoir perdu plus de 6 la semaine dernière. Bonsoir Étienne, du côté de Wall Street, ça a l'air assez calme quand même.
Oui, c'est calme, mais c'est des records. Une fois de plus, pendant que le CAC 40 est à zéro depuis le début de l'année,
des records, là.
Bah, vous avez un Nasdaq qui gagne quand même 18% depuis le 1er janvier et qui est à nouveau sur un plus haut grâce à une hausse de 0,6%, le Dow Jones plus 0,2%, le S&P 500 gagne 0,5%, Apple qui a gagné 10% la semaine dernière reprend 2% aujourd'hui et repasse devant Microsoft. C'est à nouveau ce soir la plus grande capitalisation mondiale avec 3300 milliards devant Microsoft, devant également Nvidia, Broadcom qui a revu à la hausse ses perspectives la semaine dernière, regagne encore 5%, va diviser son titre comme Nvidia. Donc vous voyez, Wall Street est toujours porté par l'intelligence artificielle avec quand même un élément important. Vous avez trois valeurs qui pèsent plus de 3000 milliards à Wall Street, donc Microsoft, Apple et Nvidia. Et ensuite, vous avez Alphabet, la quatrième, qui a 2000 milliards. Donc vous voyez, maintenant, on est vraiment dans le club des 3000, trois valeurs. Et après, Alphabet, il y a 1000 milliards d'écart entre les deux. Donc c'est pour dire l'intelligence artificielle qui continue de porter Wall Street, qui continue de cliver la tendance avec une performance qui se fait sur quelques valeurs et les petites et moyennes valeurs qui continuent d'être délaissées. Néanmoins, ça continue de porter les trois indices américains et donc un record aujourd'hui sur le Nasdaq et sur le S&P 500.
Il y a des records quasiment tous les jours, j'ai l'impression, vous écoutez du côté de Wall Street. Voilà, ça devient la routine. Merci Étienne. Étienne Braque avec nous ce soir sur BFM Business, 19h11. On revient avec Audrey Tcherkov et nos experts, évidemment, dans un instant. De quoi est-ce qu'on parle? On va reparler des marchés parce qu'on sent bien que c'est encore un petit peu poussif aujourd'hui. On va reparler d'Emmanuel Macron qui va faire de la pédagogie, qui va raconter les arcanes de la Ve République à ses homologues européens ce soir. Et puis on posera la question, est-ce qu'il faut que les partenaires sociaux, syndicats, patronats s'investissent plus dans la campagne? Pour l'instant, ça défile pas sur les plateaux télé, comme on dit. Tout ça plus bien d'autres choses. On est là jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15 sur BFM Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous, puis nos experts qui sont là pour refaire l'actu ce soir. Nathalie Janson est là. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Professeur à... Il n'y a que des économistes ce soir, je le dis, je plante le décor. Ouais. Voilà, c'est très bien.
Mais les meilleurs.
Oui, Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School. Bonsoir Nathalie. Pascal Delima, bonsoir Pascal, chef économiste chez CGI Business.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir. Et Christophe Rameau qui est avec nous. Christophe, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant-chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et membre des économistes atterrés. Alors, on a beaucoup de choses ce soir, comme tous les soirs. Et vous savez quoi ? On va commencer ce débat avec, comment je dirais ça, notre petite météo à nous. Vous savez, vous avez remarqué que souvent les JT ouvrent avec le point météo. Notre météo à nous, notre petite météo marine, c'est le taux à 10 ans français, vous voyez, qui, ce soir, ne bouge pas. On est toujours à 3,14%. Et quand on regarde l'écart avec le taux allemand, le Bund, bon, on est repassé sous les 80 points, donc pour l'instant ça se calme.
Oui, alors côté action, donc le CAC 40 qui avait commencé dans le vert ce matin, finalement il a reculé.
Pour terminer en hausse.
Oui, c'est vrai, pour terminer en hausse. Mais enfin, comment est-ce que vous regardez la situation sur les marchés? Est-ce que ça vous inquiète, Nathalie?
Alors moi je trouve que les marchés illustrent bien, c'est un peu une illustration de cas d'école, comme d'ailleurs j'avais déjà dit la semaine dernière, puisqu'on voit bien qu'en fait c'est comment est absorbée une surprise. Donc là c'est une vraie surprise, contrairement au rating, enfin la note effectivement de S&P, on voit bien que là c'était une vraie surprise, que personne ne pensait. La probabilité que en fait Emmanuel Macron annonce une dissolution était extrêmement faible en termes de probabilité, et donc ils ont été surpris. Et ensuite, ils ont absorbé la nouvelle. Donc, on a vu qu'il y a eu plusieurs épisodes. C'est-à-dire qu'au début, on a vu le spread s'accroître. Oui. Et tous les jours s'accroître un peu parce qu'il y avait des nouvelles tous les jours. Et donc, en fait, toutes ces turbulences ont provoqué effectivement des changements d'anticipation jusqu'à ce qu'ils aient absorbé le choc de la surprise. Et on voit qu'ici, on est en phase de stabilisation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne changeront pas à nouveau, puisqu'il va y avoir le scrutin. Mais effectivement, là, on a absorbé la première surprise, la vraie surprise qu'on ne pouvait pas
absorber. Donc, vous dites pas, parce qu'on commence à entendre des professionnels de marché qui disent, vous savez, l'incertitude va être ce qu'elle va être, donc d'ici le 7 juillet, le 8,
ils peuvent passer
les actions françaises...
Oui.
Les obligations françaises, mais on n'y va plus.
Oui, c'est ça. Un attentisme qui va suivre le mouvement de vente.
Bougeant au rythme des nouvelles tous les jours. C'est-à-dire quoi, pendant deux semaines, tous les actifs français, c'est terminé là?
Non, mais en fait, l'instabilité politique a des conséquences économiques importantes. Ça a déjà été chiffré. Ça peut être chiffré autour de 2,6% de richesse en moins par habitant, attention. Ouais. Et donc, il y a des études qui montrent que cette instabilité politique-là aussi drive l'instabilité en termes de politique économique à venir. Et il est évident que les marchés financiers, et pas que les marchés financiers, les entreprises de façon générale ont besoin d'une certaine stabilité fiscale et ont besoin aussi de stabilité en termes de trajectoire budgétaire. La stabilité fiscale, c'est quelque chose qui impacte directement les actions, en fait. Et la stabilité de la trajectoire budgétaire impacte plutôt les obligations. Donc c'est une réponse directe à ce que vous disiez. Tant qu'il n'y a pas de clarté totale sur qu'est-ce qu'on fait en matière de trajectoire budgétaire et qu'est-ce qu'on fait en matière de stabilité fiscale.
Il n'y en aura pas plus le 8 juillet au matin.
Voilà, les marchés financiers vont toujours craindre quelque chose. Et en plus, ils ont intégré aussi le fait que, comme vous dites, qu'on risque de continuer dans un flou, dans un brouillard entre l'extrême gauche, l'extrême droite, les centres gauche, les centres droits, et de ne pas y voir beaucoup plus clair. Voilà mon analyse.
Mais en plus, avec des rumeurs qui inquiètent aussi les investisseurs étrangers, l'arrivée de l'extrême gauche notamment, qui pourrait faire sortir la France de l'Union européenne, est-ce qu'on joue à se faire peur? Christophe Rameau, parce que je rappelle aussi que Paris a redonné à Londres le titre de première place boursière européenne, c'est quand même inquiétant.
Écoutez, ce qui est particulièrement déplaisant, je pèse mes mots.
Oui.
C'est cette façon qu'a Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, le gouvernement. On a un président qui a, vous voyez ce que je veux dire, maintenant tout le monde le sait, cette dissolution, c'est un scandale politique. D'accord ? c'est un coup de dé, c'est un véritable scandale politique. Hein, parce que, scandale politique pourquoi ? Parce que, qu'il dissolve à l'automne, mais à l'automne, on aurait pu avoir les moyens d'avoir un temps de campagne relativement long pour échanger, y compris sur les programmes.
Là, c'est sûr qu'en 15 jours,
là, c'est dissous, très ramassé. Comme ça, un coup de tête hein, dans sa glace, entre guillemets, d'accord ? Résultat des courses, on a les temps de débats électoraux les plus raccourcis que la Constitution oblige, malgré tout, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est sur l'incertitude politique. Donc, l'incertitude politique, elle est provoquée par le président. Et dans le même temps, on a le même président et Bruno Le Maire qui court sur les plateaux et tous leurs conseillers qui les suivent sur les thèmes. Oh là 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 là, risque de panique. Mais c'est un authentique scandale au niveau
c'est-à-dire,
citoyen.
C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il joue alors, au pompier pyromane.
Mais bien sûr.
Alors, c'est d'autant plus grave. De l'avoir fait
c'est d'autant plus grave.
Pour raccourcir.
Qu'à l'heure où je vous parle ce soir. On n'arrête pas d'entendre sur les plateaux le spread d'auto, tata. Oui. Mais vous savez que ce que l'agence France Trésor publie tous les jours, le TEC 10, d'accord, oui. Le taux d'échange constant à 10 ans,
oui.
Il est exactement le même ce soir, aujourd'hui, qu'il était avant les élections. D'accord ? Si le spread de taux a baissé avec l'Allemagne, c'est pas parce que les taux français ont augmenté. C'est parce que le taux allemand a baissé.
Oui.
D'accord ? Donc
pourquoi
c'est important quand même.
Mais pourquoi,
comme
parce,
nuance.
Mais pourquoi Christophe ? Parce qu'à défaut d'acheter des obligations françaises, on achète de l'allemand,
arrêtez,
du bund allemand.
Arrêtez, s'il vous plaît, sur les plateaux, de répondre ce climat de panique. C'est proprement.
Non, d'accord ? Ce qu'on dit simplement, alors, c'est qu'il n'y a pas de panique sur la dette française.
Il n'y a aucun problème.
Mais que les investisseurs, pour l'instant, préfèrent s'orienter par précaution sur le bund allemand. Je ne dis pas qu'il y a panique, il n'y a pas de panique.
L'autre problème, l'autre chose, sur le CAC 40. Sur le CAC 40, il a pris 40%. D'accord ? Par rapport à ce qu'il était avant la crise du Covid en 2019.
Il y a une bulle. Depuis le début de l'année.
Il y a une bulle boursière, en France comme ailleurs d'ailleurs. Hein. Il y a une véritable bulle boursière qui va se dégonfler un jour, peut-être pas tout de suite. Enfin, tous les analystes sont d'accord
pour dire qu'il y a une bulle.
Oui, mais on a pris 40%, c'est augmenté de 40%, on a baissé de 10%. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, donc, d'accord ? On a toujours. Alors, si ça. La politique. D'accord, quand on vient en République, ça revient aux citoyens. C'est pas au marché de faire la politique. Donc il y a quelque chose de proprement indécent de jouer sur les peurs. Et par ailleurs, la baisse des actions, si ça pouvait permettre aux gens qui nous écoutent de comprendre que quand une action augmente, quand le cours d'une action augmente, c'est pas une plus-value réelle. Hein. C'est un bout de papier, vous l'avez acheté 100, ça vaut 150. Ça vaut 50% en plus. Mais tant que vous l'avez pas vendu, il n'y a pas de plus-value réelle. Et il se trouve que quand chacun essaye de faire sa plus-value réelle, c'est-à-dire vend son action, eh bien c'est ce qu'on appelle un crack. D'accord ? Donc, si ça pouvait, attention à ne pas conforter parfois dans
pour
un certain discours critique. Je termine là-dessus. Il y a un certain discours critique parfois, regardez, je balais devant ma porte, qui dit, oh, la bourse a augmenté, scandale, les actionnaires s'enrichissent. Non. La bourse a augmenté, ça veut dire que les plus-values potentielles ont augmenté, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le cours augmente. Mais pour que la plus-value potentielle devienne plus-value réelle, ça veut dire que les gens vendent et c'est ce qu'on appelle un crack, il n'y a plus de plus-value réelle.
Okay, donc
voilà la leçon d'économie.
De vous entendre,
attention,
sur
et alors,
cette position-là.
Il y a de loin, il y a de très très loin, de la coupe aux lèvres entre ça et le financement des entreprises.
On est d'accord. On est d'accord, Christophe, pour dire qu'il n'y a pas de. Nathalie,
oui,
il n'y a pas de situation de panique aujourd'hui sur les marchés, clairement.
Comme je disais tout à l'heure, c'est juste un ajustement.
C'est un
effet de surprise. Personne ne s'attendait.
Au-delà de ça, par conséquent, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une situation qui va créer des opportunités ? Parce que comme. Je vous donne par exemple l'exemple de Vinci. Donc on a une action qui a chuté sur la possibilité que Jordan Bardella serait élu Premier ministre et qui changerait le statut de Vinci s'il était élu. Bon, il s'est exprimé sur le sujet, il n'y aurait pas de changement de statut. Mais, donc par conséquent, est-ce que ça peut être aussi le bon moment d'acheter certaines actions très solides qui sont en train de baisser pour des mauvaises raisons ?
Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est ce que disait déjà ce matin un certain nombre d'analystes financiers. Il y a aujourd'hui des actions, notamment dans la tech, qui augmentent.
D'accord.
Notamment dans les métiers du futur, dans les biotech, dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. On est bien dans un processus de transformation. Et ce processus de transformation-là, il tire évidemment les métiers de demain et il laisse un petit peu de côté les métiers traditionnels, malgré ce qu'on a pu dire il y a un an, qui finalement ne s'est pas avéré aujourd'hui sur les marchés. Donc effectivement, il y a des arbitrages de portefeuille où le détenir et garder n'est plus trop d'actualité, mais plutôt des frappes chirurgicales tactiques sur les métiers de demain. Quoi.
Je vous fais écouter Christine Lagarde, qui était en déplacement dans la région parisienne ce matin, qui a été interrogée sur la dette française par BFM Business, comme ça à la volée, qui dit « On est attentif !» Alors, prudence dessus, on est attentif. Écoutez Christine Lagarde.
Il faut rester à sa place et tenir son rang. Aujourd'hui, Comme présidente de la BCE, j'ai pour objectif impératif de ramener l'inflation à 2%. Alors, ça peut paraître trivial au regard des enjeux politiques, des débats actuels, etc. Mais, c'est pour ça que j'ai été missionnée. Deux, le Conseil des gouverneurs est complètement unanime sur le sujet. Et trois, les questions d'inflation sont très importantes pour les Européens.
Voilà, elle dit on est attentif. Notre mandat, c'est l'inflation.
Ce qu'elle dit quand même, voilà, c'est qu'elle ne dit rien.
Non, mais
c'est assez bien résumé. Oui, c'est un bon résumé. Bravo, Audrey. Merci. Enfin, l'art de la synthèse.
Il reste quand même 2-3 semaines. Il peut encore avoir des soubresauts sur les marchés. Les marchés intègrent très bien les informations.
Ouais.
Et moi, je ne suis pas complètement certain que ce soit totalement encore apaisé.
Ouais. Ah non, c'est juste pour le moment.
Voilà, c'est pour le moment.
Là, on a une pause.
Alors, attendez, justement, puisqu'on parlait de la BCE, est-ce qu'il y a, dans l'esprit des dirigeants et du nouveau Front Populaire et du Rassemblement National l'idée que de toute façon, si ça dégénère, comme tout le monde, comme on répète depuis des années, la Banque Centrale sera là en tant que sauveur de la zone euro, en tant que sauveur, en acheteur en dernier ressort, comme on dit.
Ah,
les années
oui,
qu'on raisonne comme ça, donc pourquoi
vous savez là.
Enfin, elle sera là, de toute façon, ça c'est sûr.
En tout cas, au départ, vu qu'ils ont adopté en 2022 ce fameux mécanisme, il est clair que si jamais, alors ils vous disent que ça dépend des conditions, là j'ai encore relu avant de venir, il y avait l'interview de Lane dans le Financial Times qui disait bien qu'effectivement, pour le moment, la question ne se pose pas, mais qu'effectivement, il y a cet outil et que si. Les marchés devaient tanguer, il est possible qu'ils le sortent. Alors effectivement, comme les règles sont pas très clairement énoncées, on peut s'interroger. Mais
alors c'est l'encouragement à l'aléa morale.
Voilà, comment a fini l'histoire de la Grèce. Je ne vois pas comment on ne ferait pas sur la France dès le début.
Mais comment dire,
Christophe,
la BCE peut pas se permettre la Commission européenne peut pas se permettre de faire ce qu'elle a fait avec la Grèce. C'est-à-dire d'étrangler la Grèce pour qu'elle revienne dans le droit chemin. La France, ce n'est pas la Grèce. La Grèce, c'est 2% du PIB européen. Oui. Donc ce que les libéraux ont imposé de façon proprement antidémocratique à la Grèce, ils ne peuvent pas l'imposer à la France. D'accord ? Parce que si la France, si je puis me permettre, sort de la zone euro, derrière, il y a l'Espagne, l'Italie. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, arrêtons ces délires. Par contre, l'autre élément, parce que Bruno Le Maire qui intervient en disant, enfin, nous, on laisse un pays en bon état économique, et puis c'est la catastrophe qui arrive avec le changement. Non, mais
il n'a pas tout à fait dit ça.
Bien, exactement ça. Pire que ça. Pire que ça. Mais attendez, c'est quoi le bilan ?
On est bien d'accord sur le ratio dramatique.
Non, mais non seulement ça, mais il n'y a pas que le déficit, Audrey. Il y a les défaillances d'entreprises. L'économie française va très mal. D'accord ? Donc le bilan que laisse ce gouvernement, c'est une économie qui va particulièrement mal en matière de chômage. Le chômage cesse aujourd'hui.
Alors on a un taux d'emploi qui est quand même bon, Christophe.
Mais je vous assure, les emplois, pour l'instant, ça y est, on est dans l'enlisement. D'accord ? Il y a des faillites d'entreprises qui battent. Là, on vient d'avoir les chiffres en mai. D'accord ? Sur un an, on a un chiffre. On a à nouveau
des
chiffres
records. Alors on a rattrapé les taux de 2019.
D'accord, mais donc, vous voyez ce que je veux dire ? Dire que. Et on a un déficit public. Cerise sur le cadeau pour des libéraux qui nous donnent des leçons. Et pourquoi on a un déficit public ? Je vous le rappelle, c'est important quand même. En 2023, la dépense publique en pourcentage du PIB a baissé. La dette publique aussi, d'ailleurs, a baissé. Mais le déficit a augmenté. Pourquoi ? Parce que on a moins de recettes. Je vous rappelle que ce gouvernement, ce gouvernement et les précédents, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a 7 ans maintenant, eh bien, il y a des baisses d'impôts qui ont bénéficié d'abord aux plus riches et aux entreprises, et les entreprises appartiennent globalement aux plus riches, d'accord, les grandes entreprises, pas les PME, bien entendu.
30 milliards de baisses pour les particuliers, 30 milliards pour les entreprises.
Voilà, on est même un peu plus, quand on actualise, on est à 70 milliards, c'est colossal, d'accord, donc le déficit public s'explique parce qu'on a moins de recettes. Voilà, et c'est pour
ça. Et des dépenses de frais de fonctionnement qui ont augmenté.
Les dépenses en pourcentage du PIB ont baissé l'année dernière, Audrey.
Non, mais tout à fait. Alors après, il y a un déficit structurel, il y a un déficit conjoncturel aussi, qu'on subit un peu tous aussi au niveau européen. Mais surtout, on est dans un processus pas uniquement de destruction, contrairement à ce qu'on entend souvent, on est aussi dans un processus de destruction créatrice. Je vais vous donner quelques indicateurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu plus de 50 000 entreprises qui font faillite chaque année. Mais en parallèle à cela, on a aussi 1 million de créations d'entreprises, dont 70% sont, et je viens sur le problème des inégalités et du social après, dont 70% sont dans les nouvelles technologies de l'information. On a aussi des créations d'entreprises en France dans l'intelligence artificielle. Dans les multinationales, c'est vrai que le nombre de multinationales reste assez stable, ce qui laisse à penser une espèce de rang de situation.
Mais
à l'intérieur de ces multinationales, il y a des investissements colossaux sur les métiers de demain, sur la transformation, les métiers s'enrichissent, etc. Donc c'est vrai qu'on a un retard par rapport aux États-Unis, au Japon et à la Chine sur ce processus de transformation. Et c'est pour ça aussi que je suis un petit peu contre les programmes de rupture, parce que je pense qu'il faudrait des programmes plutôt d'accompagnement et de transformation. Mais quid, effectivement, de l'inclusif, des inégalités que ça peut générer, ces technologies, d'une société à deux vitesses, une espèce de dualisme technologique où il y aurait des top jobs ultra qualifiés, tous liés au numérique d'ailleurs, et des petits emplois faiblement qualifiés. Il y a un risque social là-dessus. Pour moi, c'est ça le sujet, c'est qu'est-ce que proposent les programmes pour faire que les technologies enrichissent les métiers et fassent de la croissance économique et creusent pas les inégalités.
Dans les programmes,
mais
hein,
sur le constat, je suis un petit peu, voilà, un peu plus nuancé.
Mais en plus, on a parlé de l'affaiblissement des marchés, mais on n'a pas parlé de l'affaiblissement de l'euro face aux devises refuges que sont le dollar et le franc suisse, hein, parce qu'on n'est plus du tout à la parité.
Le pétrole augmente.
Oui, c'est assez typique aussi.
Allez, 19h30 sur BFM Business.
BFM Business. L'info éco.
19h30, je vous redonne les grands titres. D'abord, on a repris un petit peu de couleur, un tout petit peu sur le CAC 40 qui a perdu plus de 6%, vous savez, la semaine dernière, plus 0,9% ce soir, mais à l'issue d'une journée assez erratique quand même. Hein. Puis le tour entre la France et l'Allemagne, lui, s'est légèrement resserré. On en parlait bien sûr à l'instant. Emmanuel Macron est à Bruxelles ce soir pour un sommet de l'Union européenne au cours duquel on va lui poser forcément beaucoup de questions sur la situation politique. Quelle politique européenne, notamment dans quelques semaines, en fonction de l'issue du vote en France. Et puis on va aussi parler de la répartition des futurs postes clés au sein des instances, maintenant que les élections européennes sont passées. Ursula von der Leyen notamment semble bien partie pour rempiler à la tête de la Commission européenne. Et puis on parlera de la Chine à Bruxelles, parce que vous savez que ça y est, la Chine a déjà répondu à la décision des Européens de surtaxer les importations de véhicules électriques. Ils ont ouvert, les Chinois, une enquête sur les importations européennes de produits à base de porc. Le marché chinois pour les éleveurs européens est colossal. Il est estimé à 2 milliards d'euros. 19h31, nous revenons dans un instant, évidemment.
Et oui, avec un débat en direct jusqu'à 20h, hein, tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Les experts du soir sur BFM Business, il est 19h35. Ils débattent de l'actualité économique pour vous, Nathalie Janson, Christophe Rameau, Pascal Delima et Guillaume Paul, bien sûr. Alors pendant ce temps, Emmanuel Macron est arrivé à Bruxelles. On voulait vous en dire un mot. Alors c'est à l'occasion d'un sommet informel de l'Union européenne. Il est évidemment très attendu par ses homologues compte tenu du contexte politique sur lequel il va être interrogé.
Bah oui, des dirigeants qui veulent savoir globalement ce qui se passe si la droite, l'extrême droite ou l'extrême gauche arrive au pouvoir dans 3 semaines. Qu'est-ce que ça implique en termes de politique intérieure, en termes de ligne européenne? Il va expliquer un petit peu à ses homologues les arcanes, les ressorts de la 5e République. Qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il doit dire ce soir à ses homologues européens, Emmanuel Macron? Pour vous, Christophe.
Non, je ne sais pas ce qu'il doit dire.
Il faut rassurer.
Je ne suis vraiment pas en position de conseiller du prince et je ne souhaite pas l'être. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est comprendre d'abord le résultat des élections européennes. C'est une sanction pour la Commission européenne, partout. Enfin, globalement, d'accord, sauf dans quelques pays. Enfin, globalement, on a bel et bien
une
sanction des politiques.
Ouais.
D'accord ? Donc ça, c'est très clair. D'accord ? Bon.
Et PPE reste majoritaire.
Oui, non, mais il y a vraiment une sanction, je vous assure.
Oui, d'accord.
Et comment dire, ce qui est prévu par les dirigeants européens, ça y est, on commence à avoir des documents un peu précis hein, sur le programme de stabilité. C'est un véritable plan d'austérité. D'accord, c'est ça qui est prévu, c'est ça qui est dans les cartons. Hein, ça y est, ça commence vraiment à sortir. Un plan d'austérité massif. On avait dit.
Et on parle de quoi,
on parle de documents
qui circulent. On parle de quoi là?
Non, on a le programme de stabilité qui sont adoptés. Là, ça y est. D'accord. Comment dire? On avait dit oui, vous comprenez, les règles européennes sont assouplies, mais elles sont assouplies en un sens, mais en fait elles sont durcies en un autre sens. Elles sont durcies dans le sens où maintenant on impose aux États des trajectoires nationales.
Oui.
D'accord. Des trajectoires nationales de réduction de déficit, mais de réduction de déficit et de dette, mais qui sont vraiment à marche forcée. Hein, donc les estimations là qui sortent, c'est de l'ordre de 150 milliards à l'échelle européenne de programmes de baisse des dépenses de façon à pouvoir se ramener dans les clous, les fameux clous.
Mais alors qu'est-ce qui va se passer si les États membres ne respectent pas les trajectoires? Parce que les trajectoires, elles ont toujours été données, elles n'ont jamais été respectées.
C'est pas vrai, faut pas dire ça. Il y a eu la crise.
Ah bah enfin, à l'image de la France,
il y a eu la crise de 2008.
Pour dire que
sanctions
n'ont été appliquées.
Non, mais il y a eu la crise de 2008.
Non, bien sûr, enfin l'Italie.
Il y a eu la crise de 2008 provoquée par le libéralisme économique. On a suspendu. Il y a eu la crise de 2020. personne n'est responsable, là, si je puis dire. D'accord, c'est le Covid, ok ? Très bien.
C'est
enfin,
le libéralisme.
2021, oui, enfin bon, bref, on ne va pas revenir sur l'état de l'hôpital public qui a été saisissant
oui,
à ce moment-là.
Bon, allez-y,
c'est
allez-y,
un autre débat, d'accord ? Mais 2021, ouais. crise d'inflation, etc. Donc à ce moment-là, on suspend les règles. Mais on les suspend, seulement les règles restent en état. Elles ont été renégociées. Mais je vous le dis, dans la renégociation, il y a une part d'assouplissement en partie sur les règles systématiques, si vous voulez. Mais il y a un durcissement sur les trajectoires nationales. Et ça concerne d'autant plus la France, qu'on fait partie des pays où la dette publique n'est pas extravagante par rapport aux autres. Mais enfin, on est légèrement au-dessus. Donc, on a des programmes d'austérité qui sont prévus, qui vont faire très, très mal en matière de dépenses publiques. Avant la dissolution, là. Il faut savoir quel était le climat dans les ministères. À essayer de gratter, mais de gratter littéralement.
On s'en souvient.
D'accord,
ah bah oui,
ça, c'était
on
terrible.
On en a parlé tous les
d'accord
soirs sur ce plateau.
Non, parce que quand on parle de dépenses publiques, c'est abstrait, mais c'est les services publics qu'il y a derrière.
C'était d'accord 20 milliards d'euros
donc cette année, 20 milliards. Oui, mais c'était que 20 milliards, vous voyez ce que je veux dire.
Oui. Mais sur cette réunion qui va avoir lieu ce soir, Nathalie, à Bruxelles, est-ce que vous pensez que les chefs d'État qui attendent Emmanuel Macron vont lui passer le message clairement sur le fait qu'il joue à la roulette russe avec la France, ça le regarde, mais il joue aussi à la roulette russe avec l'Europe?
Oui, je pense qu'ils vont lui sans doute signifier très poliment leur mécontentement, enfin c'est le savoir, voilà, de dire qu'en fait il les met devant le fait accompli, comme il l'a fait pour beaucoup d'autres d'ailleurs, mais que ça peut effectivement avoir des conséquences sur le devenir de ce qui se passera effectivement à la enfin dans le travail de la Commission européenne et au niveau du Parlement européen, puisqu'effectivement si on a un RN qui a une majorité relative, ça peut avoir des impacts bien évidemment sur ce qu'ils demanderont au niveau de l'Europe. Donc, c'est sans aucun doute, ça les met dans une position délicate, puisqu'ils n'étaient pas, partis dans cette stratégie. Et ils sont comme les marchés, ils se retrouvent à devoir absorber une nouvelle à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Donc, oui, je pense que pour eux, c'est quand même une nouvelle qui ne les rassure pas et qui montre que Emmanuel Macron fait effectivement tout ce qui l'intéresse, lui.
D'autant que un nouveau Parlement est constitué, une nouvelle commission va arriver et qu'on devait parler ce soir du cycle législatif du Parlement, d'un nouvel agenda stratégique au niveau européen.
Oui,
la question qu'on a envie de poser aussi ce soir, c'est la politique européenne dans les quelques prochaines années, c'est quoi ? Ce sont des renoncements en matière écologique ou autre finalement ? Qu'est-ce que nous dit la nouvelle donne là finalement ?
La nouvelle donne, elle insiste effectivement sur l'écologie, elle insiste sur la transformation économique, elle insiste sur le fait que les pays doivent avoir une certaine stabilité politique aussi.
Et d'ailleurs, sur l'écologie, vous voyez pas de renoncement par exemple ?
Non, je vois pas. Non, je pense que c'est il y a un consensus scientifique quand
ça
même.
Ça sera ne pas écouter le message des urnes que de
non, mais effectivement, mais il y a quand même un consensus scientifique et apolitique d'une certaine façon là-dessus, et donc je pense pas qu'on puisse revenir en arrière là-dessus. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que je pense que Emmanuel Macron a un certain intérêt aussi à expliquer qu'il a besoin quand même d'une certaine stabilité pour mettre en place le prolongement de ses réformes sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur un tas de sujets où finalement il a besoin aussi d'avancer, et que le vrai sujet pour moi, comme la probabilité d'une cohabitation est quand même assez forte, c'est celui de l'efficacité d'une cohabitation, et peut-être qu'il estime qu'une cohabitation serait plus efficace, je dirais, que l'instabilité totale d'aujourd'hui. Bref, je pense qu'il peut y avoir aussi, c'est le premier groupe de réponse, et de dire à l'Europe que nous, on va être avec vous sur de continuer cette Europe, de prôner une Europe plus intégrée, plus cohérente. On sait qu'il y a des divergences dans tous les sujets, notamment dans la défense, et je pense que ça peut être un second souffle. Hein. Moi, j'essaie d'analyser les choses un petit peu du côté de politique économique.
Oui.
Après, il peut y avoir aussi une ambition purement tactique, comme je le disais, de montrer quelque part que le Rassemblement national n'est pas capable de gouverner, peut-être, de faire en sorte que la droite de la gauche clarifie ses positions, de faire en sorte que LR clarifie ses positions, parce qu'on sait qu'à LR, il y avait des motions de censure sur le budget 2025 pour l'automne prochain, qu'elle est peut-être arrivée, ce qu'ils ont toujours refusé depuis. Donc, ça peut aussi être une tactique de ce point de vue-là. Bon, voilà. Ou sortir peut-être vainqueur un peu en se disant qu'il avait une démarche courageuse, j'en sais rien. J'essaie de reprendre des analyses.
Oui. Alors après, si on reprend son champ sémantique, parler de clarification, alors que justement le président de la République a tout fait pour détruire les partis traditionnels de gauche et de droite.
Il
a bien réussi, voilà. Donc c'est quand même un peu cynique, mais quand même, est-ce que justement, puisque Christophe Rameau parlait tout à l'heure du message qui a été passé par les citoyens dans les urnes, est-ce que c'est un message de demande de pragmatisme au niveau européen, d'approche peut-être moins idéologique, notamment sur les sujets du pacte vert dont vous parliez, sur les sujets aussi de politique migratoire.
Ah ben c'est sûr que c'est là-dessus que peuvent peser les incertitudes. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. si on a une cohabitation avec plutôt le RN en cohabitation, la demande, en tout cas, au niveau de l'Europe, c'était de leur point de vue, c'était clairement d'essayer d'imiter la bureaucratie européenne et de revoir les règles de l'immigration. Ceci étant, si on regarde ce qu'a fait effectivement l'Italie avec Meloni, il ne s'est pas passé grand-chose. Puisque de toute façon, ils ont absorbé les immigrants. Enfin,
c'est pas passé grand-chose parce qu'elle a pas du tout appliqué le programme pour lequel elle a été élue.
Non, tout à fait. Mais il est possible que la même chose se passe
absolument
aussi chez nous.
Vous voyez comme ça, Christophe.
Comment dire,
le copier-coller de Meloni qui va sortir les gros bras ce soir au sommet européen.
Il faut vraiment avoir de la. Depuis 40 ans.
Oui.
Depuis Delors. Mais enfin, il n'y a pas que lui, hein. Enfin, il l'a bien porté, ce projet. Et on ne peut pas lui reprocher d'avoir été malhonnête. Mmh. Il l'a porté ouvertement. Je ne suis pas d'accord avec ce projet, mais enfin, il l'a porté. Depuis Delors, c'est la gauche sociale-libérale qui, en fait, a porté de façon systématique le projet de tournant social-libéral en matière de politique économique, et avec l'idée que, pour faire passer ça, comme les peuples n'en voulaient pas, on allait prendre appui sur les institutions supranationales, là où le pouvoir du peuple est faible, pour l'imposer. Donc il y a eu la mondialisation, puis en Europe on a eu la double peine, on a eu la mondialisation et la construction européenne dans un sens libéral. Il y a, de ce point de vue-là, des écrits que je trouve très documentés d'Aquilino Morel, qui décrit très bien comment, eh bien, y compris, vous voyez, je balaye devant ma porte, c'est la gauche, en fait, social-libérale, qui a porté ce projet qui nous amenait, de mon point de vue,
ça, c'est une surprise
à la catastrophe.
De vous entendre dire ça,
qui nous amenait à la catastrophe.
Parce qu'il n'y avait pas de projet politique.
Et donc,
parce qu'il
n'y
avait pas de projet politique.
Avec un projet politique.
Non, il n'y avait pas de projet politique.
Bien sûr que si, qu'il y avait un projet politique, qui était celui du fédéralisme. Du fédéralisme européen au service du libéralisme. Bien sûr qu'il y a un projet. Bien sûr, c'est un projet tout à fait cohérent. Et d'ailleurs, avec les institutions qui ont suivi, d'accord, le traité de Maastricht, je ne vous refais pas l'exemple, l'euro introduit de façon libérale.
Il aurait fallu faire l'euro avant, peut-être.
Non, mais on en est là. On en est là, donc on a, de mon point de vue, ce qu'il faut entendre. Ça s'est exprimé, ça s'exprime de plein de façons, mais y compris le vote à l'extrême droite, qui n'est pas le mien, mais il exprime cela et il faut l'entendre. Mmh. Il faut entendre que les peuples aujourd'hui en Europe, ils veulent défendre le cadre, y compris des États-nations. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas d'Europe, mais ils veulent une Europe qui soit au service des États-nations. Parce que la démocratie, elle vit dans le cadre des États-nations, et parce que l'État social, il est national. Vous voyez ce que je dirais? Là, je m'éloigne.
Ah, on est bien d'accord. Et la crise du secteur agricole en France, ça illustre parfaitement ça.
Et là, je m'éloigne des thèses de Piketty, etc. Hein, quand Piketty dit, quand il défend le fédéralisme, sur le thème, il faut un État social fédéral européen. Mais je lui dis, mais Thomas Piketty, Thomas, le problème auquel tu es confronté, c'est qu'aujourd'hui, les dépenses proprement européennes, publiques, c'est 1% du PIB européen.
Oui.
D'accord?
Oui.
En France, même si c'est pas une part du PIB, on est à plus de 50%, et ailleurs, pareil. Et on ne peut pas aller fondamentalement... Moi, je suis pour augmenter le budget de l'Union européenne pour les plans de relance, mais fondamentalement, dans la dépense publique, il y a quoi? Il y a des services publics, ça a quasiment pas augmenté depuis 40 ans, mais enfin, c'est là, quand même. 16% du PIB, à peu près, ça n'a pas augmenté depuis 40 ans, hein, on consacre pas plus d'argent. Et puis, il y a surtout les prestations sociales, ça s'est augmenté, les retraites, ça va, bon, très bien. Et ça alimente la dépense auprès du privé. Mais ça, tout ça, ça ne peut pas être européen. On va pas faire des instituteurs européens, des hôpitaux européens,
mais
des gendarmes européens.
Personne
on va pas faire
ça,
mais non, mais le projet fédéraliste.
Non,
mais c'est important. C'est important d'avoir ça comme boussole. Le projet fédéraliste. Attendez, excusez-moi. Le projet fédéraliste, quand Macron dit, je suis pour la souveraineté européenne. Il porte ce projet fédéraliste.
Non, mais attendez, il parle des sujets de défense, de protectionnisme face à l'Iran américain.
Les libéraux, depuis 40 ans en Europe.
On est sur les grands sujets régaliens quand on dit ça.
Mais non, il n'y a pas que ça, je vous assure. Mais non, depuis 40 ans, les libéraux en Europe imposent leur projet par l'intermédiaire du fédéralisme européen, d'accord ? Qui a un contenu éminemment libéral. Il y en a qui pensent, c'est la position de Thomas Piketty et d'autres, que ce fédéralisme libéral, il faut le condamner, mais il faut le remplacer par un fédéralisme social. Eh bien, moi, je pense que ce n'est pas possible. C'est un débat important. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ce qu'expriment les électeurs, y compris à travers le vote d'extrême droite, et de ce point de vue-là, il faut l'écouter, il faut le respecter ici, eh bien, c'est le fait qu'on ne veut plus de ce dessaisissement politique et économique.
Alors, 4 minutes avant vos avis du soir.
Ça va être court.
C'est court. On peut le faire. C'est Pascal qui parlait de top jobs tout à l'heure. On va aussi parler des top jobs ce soir, les grands postes clés stratégiques au niveau des instances européennes. Et notamment la question de savoir si Ursula von der Leyen doit rempiler à la tête de la Commission européenne.
Dans un calendrier ultra serré.
Vous dites elle va, mais est-ce qu'elle doit rempiler à la tête de la Commission européenne pour vous ? C'est la question qu'on vous pose ce soir.
Voilà, exactement. Est-ce qu'elle a un bon bilan, Nathalie Janson ?
Moi, j'ai bien aimé ce qu'elle a fait, effectivement, à la tête de l'Union européenne. De toute façon, elle a réussi à faire un tour de force, c'est-à-dire elle a quand même imposé à l'Europe de continuer la même ligne directrice pour avoir des pays européens qui soient quand même qui continuent à être ouverts et insérés dans la mondialisation. Et en même temps, elle n'a pas empêché l'émergence de discussions au sujet de sujets comme la souveraineté digitale. Bon, même moi, si je suis pas, voilà, je suis pas une grosse fan de ces sujets-là, mais elle a quand même réussi à porter les deux. Donc finalement, elle a pas un bilan si mauvais.
Mandat de 5 ans avec le Covid plus la guerre en Ukraine, Pascal.
Oui, Pascal Denima semble un peu plus nuancé.
Non, mais c'est-à-dire que effectivement, les constats quand même sur l'Union européenne sont, à mon sens, plutôt négatifs. Lorsqu'on regarde les indicateurs d'inégalité, lorsqu'on regarde le fossé Nord-Sud, lorsqu'on regarde, un certain nombre de sujets sociaux plutôt. Lorsqu'on regarde effectivement des sujets plus liés au marché financier, au multinational, l'aspect est peut-être plutôt positif, je pense aussi. Je tiens à préciser qu'avant l'euro, avant l'Union européenne, il n'y a pas eu que des partis d'extrême droite partout et qu'il y avait aussi une Europe qui existait à travers leurs avantages comparatifs et à travers des projets de coopération qui étaient tout à fait européens. Moi, je suis très pro-européen, je l'ai toujours été, mais je trouve que par rapport à ce qu'on a enseigné constamment à l'université, je me dis, mince, j'ai peut-être loupé quelque chose. C'est pas exactement ce que j'ai enseigné à tous ces étudiants. Je le dis de façon, c'est une espèce de mea culpa. Je me souviens, je lisais Problèmes échos dans les années 90, c'est fantastique, l'Europe. Et puis je me dis aujourd'hui, tiens, ce qu'avait dit Jacques Delors, tiens, ce qu'on nous avait promis en termes d'avantages comparatifs, de coopération. En fait, on a créé quand même une Europe exclusivement financière. Alors, je suis plutôt libéral, enfin, social-démocrate, libéral, bon. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est loupé quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est loupé.
On l'a même pas fait très bien puisqu'on n'a pas encore l'union des marchés de capitaux.
C'est en gestation.
Christophe, une minute là rapidement, très vite sur le bilan de von der Leyen à la tête de la Commission européenne pour vous.
Est-ce que c'est
pas un sujet pour vous?
No comment, mais non, mais par contre.
Pourquoi no comment? Vous n'avez pas d'avis sur ce qu'elle a fait pendant
C'est une politique néolibérale qui est pas la mienne. Bon voilà, je vais pas enfoncer le clou.
Mais comment dire? Il est déjà très enfoncé.
Mais par contre, je pense que ce qui est important pour bien comprendre les enjeux, c'est que à partir du moment où on a une monnaie unique avec des structures productives très différentes, si vous voulez, avant les Grecs ils travaillent plus que les Allemands, mais il y a plus d'industrie et de grandes entreprises en Allemagne, donc la productivité est plus importante en Allemagne parce que les gains de productivité sont dans l'industrie et dans les grandes entreprises. Et donc à partir du moment où vous plus dévaluer ou réévaluer votre monnaie, vous faites la concurrence entre vous. L'Europe de la coopération que vous avez promis, en fait, c'est une Europe de la concurrence interne en matière sociale et en matière fiscale. C'est ça le drame. Donc les européistes qui nous disent ah oui, vive l'Europe fédérale. Mais non, mais en fait, ils organisent la guerre intra-européenne. Et par ailleurs, on a un pays là-dedans qui tire sa croissance par les exportations.
Non, mais justement, la guerre des dévaluations, c'est la même chose. Enfin, c'est vrai. On se voilait la face.
C'est des dévaluations internes. C'est des dévaluations internes par les baisses de salaire.
C'est la même chose.
Oui, mais c'est la même chose. Une dévaluation interne par les baisses de salaire. Pour les travailleurs, c'est pas la même chose qu'une dévaluation externe.
On provoque des mots par la dévaluation externe également. Donc,
est-ce que vous dites que justement l'union des marchés de capitaux serait éventuellement une solution pour faire converger les intérêts?
Ça serait encore pire parce que ça veut dire que on dessaisit la puissance publique, d'accord, de moyens d'intervention par rapport à la dictature des marchés, si je puis me permettre. Donc, je suis absolument
opposé. Et la dictature de la mondialisation pour justement concurrencer avec les acteurs américains et chinois.
Pour concurrencer les acteurs américains et chinois, il faut mener des vraies politiques industrielles publiques.
Mais donc locales.
Et pas.
Nationales.
Il n'y a pas de problème de. Vous savez, il n'y a pas de problème d'épargne. En Europe, on a trop d'épargne. D'accord ?
On
ne va pas où il faut parce qu'on ne dépense pas assez en interne. Donc on est en excédent. Mais l'Allemagne, surtout, est en excédent.
Allez, 2 minutes 30 encore. C'est l'extra time, comme tous les soirs. Vos avis du soir. Coup de gueule ou coup de cœur sur une trentaine de secondes. C'est la règle impitoyable. 30 secondes, il faut les tenir.
Alors je sens que Christophe va avoir un coup de gueule.
Oui, mais il va les tenir. ces 30 secondes. Allez, c'est à vous, Christophe.
L'INSEE vient publier ses fantastiques comptes de la nation. Et qu'est-ce qui apparaît quand on regarde le solde des administrations publiques? Eh bien, il faut savoir que les administrations de sécurité sociale, en 2023, ont dégagé un excédent de 13 milliards. Donc, globalement, les administrations de sécu sont en excédent, ce qui fait qu'on peut, que les libéraux sur les plateaux peuvent exhiber des déficits, c'est parce qu'elles remboursent à marche forcée la dette. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, elle est en excédent. Voilà, il n'y a absolument pas de problème.
Excédent 13 milliards d'euros.
13 milliards, c'est colossal. On était déjà en excédent de 8 milliards en 2022.
C'est vrai. Et ben comme quoi, il faut écouter les partenaires sociaux. Quoi,
et oui.
Évidemment.
Et la parole aux libéraux, justement.
Et la parole aux libéraux,
absolument. Allez, qui se lance, Nathalie Janson.
Allez, Nathalie.
Alors, ben, moi, justement, un coup de gueule aussi contre ceux qui pensent, donc les économistes qui se disent de gauche, justement, qui se réjouissaient du fait, enfin, qui soulignaient le fait que dans les programmes de la Nouveau Front Populaire, il n'y avait pas d'augmentation des impôts sur les sociétés. Mais vu de toute façon ce que les entreprises vont se prendre entre les augmentations de SMIC imposées et les, par exemple le contrôle des prix d'ailleurs qui est en commun avec le programme du RN, eh bien il ne manquerait plus qu'il y ait aussi des hausses d'impôts. Enfin, de toute façon, tout ça, ça ne favorise pas l'entreprise.
Voilà, on verra ce qui restera des programmes dans 3 semaines.
Exactement.
Ça peut encore bouger. Pascal, 30 secondes, c'est pour vous.
Alors, 30 secondes, moi je trouve ça dommage dans ces programmes de politique économique qu'il n'y ait pas de place finalement pour un grand nombre de gens qui sont tous liés à la tech, aux innovations. Oui. Et Dieu sait s'il y en a de plus en plus, notamment c'est quoi une innovation inclusive qui permet un certain bien-être pour tous, je le dis de façon un peu simplifiée. Hein. C'est quoi le monde de demain? Comment est-ce qu'on enrichit les métiers pour éviter que les salaires baissent, n'est-ce pas? Toute cette transformation-là qui pourrait être, entre guillemets, inclusive, eh bien, ce débat-là, je trouve, n'existe pas dans les programmes.
Voilà le coup de cœur, le coup de gueule, pardon, de Pascal ce soir sur BFM Business. Ben, c'est terminé, 19h54. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Nathalie Janson, Pascal Delima et Christophe Rameau. À très vite, avec plaisir, pour nos nouvelles aventures. 19h54, c'est fini, Audrey. Hein.
Oui, alors c'est terminé. Merci pour ces accords et surtout pour ces désaccords. le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir pour de nouvelles aventures.
Demain soir, 18h. Et la France, évidemment, au milieu de tout ça, malgré tout. Oui, vous avez encore une heure pour rentrer chez vous. Ça va. N'inquiétez pas. Tech & Co, dans un instant, bien sûr, à 20h sur BFM Business. À demain. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.